Et les matins débutent avec le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Au Brésil, l'assassinat d'un militant dans le nord-est hier indigne les défenseurs de l'environnement. Il faisait partie du groupe des défenseurs de la forêt dans l'état du Maranhão, correspondance d'Anne Vigna.
Nous sommes à un an de l'élection présidentielle américaine. Où en sont les démocrates lancés dans la course à la succession à Donald Trump? On verra ça avec Grégory Phillips depuis Washington.
Au Mali, le week-end a été sanglant. Une cinquantaine de soldats ont été tués dans plusieurs attaques dans le centre et le nord du pays. Un soldat français a également trouvé la mort. La défiance des populations locales dans la région se renforce.
Et puis en France, l'assurance chômage est désormais réformée. La modification des règles va impacter durement les demandeurs d'emploi. Nous ferons le point dans ce journal.
Ce sera avec Catherine Pétillon et puis nous irons également à Chanteloup-les-Vignes, théâtre ce week-end de violence. Un centre culturel a été incendié à 7h15. La question du jour, Guillaume.
Et bien surdoué, précoce, a-t-on tendance à surdiagnostiquer les enfants? On posera la question à Franck Ramuz, il est directeur de recherche au CNRS.
À tout à l'heure. De nombreuses organisations non gouvernementales appellent en ce début de semaine une nouvelle fois à mieux protéger les terres indigènes au Brésil. Des appels qui font suite à un nouvel assassinat de militants défenseurs de la forêt amazonienne. Il a eu lieu vendredi dans le Nord-Est et d'après le secrétariat aux droits de l'homme du gouvernement de l'État du Maranhão, Paulo Paulino a été piégé par des trafiquants de bois alors qu'il s'était éloigné de son village pour aller chercher de l'eau. Anne Vigna nous appelle de Rio de Janeiro.
Paulo Paulinho avait 26 ans et il est le cinquième gardien de la forêt assassiné en 3 ans. Cette organisation défend un territoire de 413 000 hectares sur lequel vivent près de 6 000 Indiens Guajajara dans l'état du Maranhão au nord-est du Brésil. Les Indiens Guajajara ont décidé en 2016 de lutter eux-mêmes contre les coupes illégales pratiquées par les trafiquants de bois sans plus attendre l'action de la police. Ils patrouillent sans cesse leur territoire et quand ils découvrent un chantier dans la forêt, ils détruisent campements et matériel et remettent les trafiquants à la police. Leur action a été saluée par nombre d'organisations écologistes et a bien freiné le trafic illégal de bois dans la région. Paulo Paulinho n'a cependant pas été tué lors d'une action des gardiens de la forêt. Selon les premiers éléments de l'enquête, on lui a plutôt tendu un piège pour l'assassiner froidement d'une balle dans la tête et tenter sans doute de stopper l'action de l'organisation.
Un des compagnons de Paulo Paulinho a également été blessé dans l'attaque. Le ministre brésilien de la Justice, Sergio Moro, a affirmé que la police enquêtait sur cet assassinat. Mais Greenpeace dénonce, aux côtés d'autres ONG, l'incapacité de l'État à protéger les territoires indigènes du Brésil. Toujours au Brésil, le président brésilien Jair Bolsonaro prend enfin la parole sur la gigantesque marée noire qui a déjà souillé 2000 km de côte, toujours dans le nord-est. Et il met en garde, le pire est à venir, selon lui. En Inde, à New Delhi, c'est la pollution atmosphérique qui inquiète, récurrente depuis longtemps à cette période de l'année, en raison notamment des brûlis agricoles dans la région. Elle est si forte en ce mois de novembre que plusieurs avions à destination de la capitale indienne ont dû être déroutés hier par manque de visibilité. L'état d'urgence sanitaire a été décrété dans la capitale. Le niveau de particules fines est monté jusqu'à 1000 microgrammes par mètre cube d'air, soit plus de 30 fois le niveau maximum recommandé par l'OMS. Emmanuel Macron arrive en Chine ce matin pour une visite d'État de 3 jours. Il doit notamment participer à la foire internationale de Shanghai pour tenter de booster les exportations françaises vers la République populaire. Il inaugurera, toujours à Shanghai, une franchise du centre Pompidou. Les défenseurs des droits de l'homme attendent également le président français sur la situation à Hong Kong où les choses se tendent. Dans le territoire semi-autonome, de nouvelles manifestations géantes ont eu lieu ce week-end et des violences, notamment, ont fait 2 blessés graves.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. Aux États-Unis, J-365 aujourd'hui pour le résultat de l'élection présidentielle déjà très attendue de 2020.
Sur fond de procédures de destitution, mais de résultats économiques porteurs pour Donald Trump, président hors norme, cette élection ne sera assurément pas comme les autres. D'ici là, la campagne en revanche prend un tour habituel. L'adversaire démocrate de Trump sera désigné l'été prochain à l'issue de primaires organisées dans chaque État. La campagne bat donc son plein. Et si Joe Biden, l'ancien vice-président, est toujours en tête des sondages, il est désormais talonné par la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, à Washington, Grégory Phillips.
Bien sûr, l'ancien vice-président de Barack Obama est toujours en tête des sondages nationaux. Dans la dernière enquête ABC Washington Post, publiée hier, il devance Elizabeth Warren de 6 points et Bernie Sanders de 8. Mais Joe Biden est inquiet. Il a vu que dans l'Iowa, par exemple, état clé, il était désormais devancé par la sénatrice du Massachusetts, mais aussi par le jeune maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, 37 ans, encore inconnu il y a quelques mois. Biden a aussi des difficultés financières et a levé beaucoup moins de fonds que ses adversaires au troisième trimestre. Bernie Sanders, lui, doit répondre aux inquiétudes sur son âge, 78 ans, et son état de santé après un infarctus le mois dernier. Enfin, du côté des petits candidats, Buttigieg fait une bonne campagne, la Californienne Kamala Harris, repérée lors des premiers débats, est à la peine, le Texan Beto O'Rourke vient de jeter l'éponge. Le paysage va s'éclaircir rapidement maintenant. Prochain débat démocrate le 20 novembre et premier caucus le 3 février prochain, dans 3 mois, justement, dans l'Iowa.
Les députés britanniques votent aujourd'hui pour désigner le nouveau speaker de la Chambre des communes. 8 candidats, 4 hommes et 4 femmes sont en lice pour succéder à John Bercow. Au Mali, le week-end aura été extrêmement violent. Depuis vendredi, une cinquantaine de soldats maliens ont été tués dans plusieurs attaques dans le nord et le centre du pays, attaques revendiquées par l'État islamique, tout comme celle qui a coûté la vie au brigadier français Ronan Pointeau de l'opération Barkhane, tué par l'explosion d'un engin explosif au passage de son convoi. Pour Serge Michailov, chercheur associé à l'IRIS, ex-directeur de la Banque mondiale et ancien patron de l'Agence française du développement, la situation sur place est catastrophique et le regard porté par les populations locales sur les forces armées déployées à travers le pays n'arrange rien.
L'attitude de la population, que ce soit au Mali ou au Burkina, est très hostile. D'ailleurs, au Burkina, et même les dirigeants hésitent à mobiliser l'armée française. Ils ne le font que, je dirais, qu'au dernier moment, quand ils ont véritablement de grandes difficultés. Mais en même temps, c'est pas le rôle de l'armée française de défendre l'armée burkinabé ou l'armée malienne. Donc, vous voyez, il y a quand même là un vrai problème. Et ce qu'on sent bien, c'est que les armées locales, mais même, je pense, la MINUSMA et peut-être Barkhane, n'ont plus d'initiative, je dirais, avec les mines improvisées, avec les armes lourdes dont ils disposent maintenant. Les djihadistes ont initiative. Quand vous prenez les différentes attaques de postes, en particulier sur la frontière entre le Mali et le Niger, et également entre le Mali et le Burkina, que fait la force G5 ?
La ministre française des Armées, Florence Parly, a débuté ce matin au Tchad une visite dans les pays du Sahel qui l'emmènera justement au Mali. En Irak, la contestation ne faiblit pas et les appels à la désobéissance se multiplient désormais pour demander la chute du régime. La grève générale paralyse le pays depuis hier. De nombreuses routes sont coupées, les écoles et administrations fermées, notamment à Bagdad et dans le sud du pays, à l'initiative notamment d'étudiants et de syndicats. En France, en Seine-Saint-Denis, coup d'envoi officiel aujourd'hui du chantier du village des athlètes en vue des Jeux Olympiques de 2024. Des travaux sur plus de 50 hectares pour l'occasion. Le gouvernement se déplace en force. Pas moins de 11 ministres seront aujourd'hui à Saint-Ouen, dont le premier d'entre eux, Édouard Philippe. Ils vont promouvoir ce qui sera présenté comme un accélérateur de politique publique utile à la population. Fin de citation. Dans les Yvelines ce week-end, c'est bien un équipement utile aux populations qui est parti en fumée à Chantelou. Loue les vignes alors que la tension montait depuis plusieurs jours dans la ville. L'Arche, un centre des arts et de la scène à vocation sociale, a été incendié à l'issue d'une soirée d'affrontement avec les forces de l'ordre. Hier, sur place à Chanteloup, l'incompréhension dominait. Reportage pour France Culture de Diane Berger.
Devant ce qui reste, Alzira Pagès soupire. Cette comédienne appartient à la Compagnie des Contraires depuis 16 ans. C'est sa troupe qui gérait l'essentiel de l'Arche, l'édifice qui avait été bâti l'année dernière pour remplacer un précaire chapiteau de toile.
Ah, c'était une structure moderne, magnifique, construite en bois. Il y avait tout l'équipement d'une école de cirque.
Et maintenant, à quoi ça ressemble en quelques mots ?
Une carcasse de cendres et de charbon. Moi, je travaille avec les enfants, je travaille avec les familles et j'aime cette ville et ça me dépasse ce qui se passe là.
Le centre culturel proposait du théâtre, des activités pour les écoles, des cours de cirque pour les enfants. Alors Anas, un adolescent du quartier, se fige quand il voit les restes de l'incendie. Plus jeune, il venait souvent ici.
C'est un lieu culte pour nous, on a passé toute notre enfance là-bas, comme si c'était à nous. pendant des années et là qui a été brûlé en quelques secondes. Ça nous a fait du mal quand même.
Un mal au cœur d'autant plus fort que dans ce quartier populaire de Chanteloup-les-Vignes, un tel lieu qui mélangeait culture et social va manquer. Rachid est né et a grandi ici. Ce trentenaire y élève maintenant ses enfants.
En fait, la moindre chose qu'on a justement pour sortir un peu les gens du quartier et avoir un peu de culture, parce que forcément, les quartiers, il n'y a pas beaucoup de culture. Et dit qu'il y a un peu de culture, et voilà ce qu'on en fait, on le crame. C'est pas une bonne image qu'on a dégagée encore une fois de la ville, malheureusement.
Mais la compagnie de cirque ne désespère pas, même si l'arche a brûlé, hors de question pour l'instant d'arrêter le travail culturel et social auprès des jeunes.
Et le chapiteau de l'arche sera reconstruit, promet la mairie de Chanteloup-les-Vignes. Hier, deux suspects ont été interpellés, dont un mineur de 17 ans. Les nouvelles règles de l'assurance chômage sont entrées en vigueur vendredi dernier. Elles sont beaucoup plus restrictives pour les demandeurs d'emploi et vont très largement pénaliser les travailleurs intermittents. Quelques nouveaux droits sont également ouverts, comme la création d'indemnisations pour les démissionnaires et pour les indépendants sous certaines conditions. Mais cette réforme majeure du quinquennat Macron aura à coup sûr des conséquences importantes sur notre modèle social. Catherine Pétillon.
Cette réforme est passée sans donner lieu à de grandes mobilisations. On le sait, il est rare que les chômeurs parviennent à se faire entendre et sur un plan social et psychologique, difficile aussi de porter des revendications sur une situation que par ailleurs on cherche à quitter. Pourtant, c'est ici une réforme sociale majeure pour l'ensemble des Français. Bien sûr, à court terme, les premières conséquences seront pour les personnes qui vont s'inscrire au chômage ou celles déjà inscrites mais qui travaillent occasionnellement. À Pôle emploi, les agents réclament un dispositif renforcé pour répondre aux personnes qui n'auront pas ou plus de droits à des allocations. David Valaperta de la CFDT Pôle emploi.
L'alerte que nous posons, c'est les conséquences que Pôle emploi va devoir gérer. Il y a une appréhension et des interrogations ici et là sur ce que va être l'attitude des demandeurs d'emploi qui vont découvrir cette baisse de droits, parce que finalement aujourd'hui, pour l'instant, beaucoup sont un petit peu passés quand même à côté de l'information. Ils vont la découvrir maintenant dans les prochaines semaines.
Plus globalement, quel sera l'effet social à moyen et long terme de la réforme ? Le gouvernement parie sur des effets de comportement et davantage de retours à l'emploi. Syndicats et associations craignent, eux, des sorties du chômage vers les minima sociaux. Deux embauches sur trois sont des CDD de moins d'un mois. Or, il faut avoir travaillé 6 mois pour ouvrir des droits. D'où cette question, quelle politique sociale va se mettre en œuvre dans les prochains mois quand d'un côté, le plan de lutte contre la pauvreté et le futur revenu universel d'activité prétendent répondre aux besoins sociaux des plus fragiles et de l'autre, la réforme du chômage enlève un filet de sécurité à de nombreuses personnes déjà précarisé.
Catherine Pétillon, l'autre réforme du moment, celle des retraites, continue-t-elle à mobiliser. Un appel à la grève reconductible a été lancé par certains syndicats à compter du 5 décembre. Un appel auquel pourraient bien se joindre les Gilets jaunes. On y revient à 7h30. De la neige en montagne à un déplacement vers le sud-est de la perturbation que connaît le pays depuis hier dans le sillage de la tempête Amélie. Voilà le tableau météo pour ce lundi. Attention au cumul de pluie possiblement conséquent aujourd'hui sur le sud-ouest. Température maximale de 12 à 22 degrés du nord au sud.